Avec François Gagnon, on va parler des répercussions financières du retrait des 737 MAX 8 et 9 de la circulation. Et je voudrais juste te donner une petite mise à jour.
Vas-y.
Il y en a 5 qui sont en vol en ce moment au-dessus de l'Amérique du Nord. Et on disait que les États-Unis et le Canada les avaient bannis. Il y a un vol de Norwegian, qui est une compagnie à rabais, qui est au-dessus du Nouveau-Brunswick, Boeing 737 MAX 8. Deux WestJet qui font route vers Toronto, un à partir de Puerto Vallarta et un autre à partir de Montego Bay. Donc, il y en a 5. Comment se fait-il qu'ils volent?
Ben, peut-être que ceux de WestJet ont une permission spéciale, fort probablement.
Pour revenir à la maison,
Pour revenir à la maison, une fois qu'ils vont être cloués à Toronto, ça va être terminé.
Je ne sais pas s'il y a des passagers à bord de ces vols-là, mais en tout cas, François, il y en a 5.
Je suppose que oui, mais je comprends pas Norwegian parce qu'ils font partie du retrait de l'Union européenne. Celle-là, je ne la comprends pas.
Il fait route vers New York.
Il fait route vers New York et surtout qu'à New York, c'est interdit de vol aussi. C'est interdit de vol au Canada. Je comprends pas, là. Celle-là, je le comprends.
Moi non plus.
Sauf que ça va coûter extrêmement cher, Paul, ces retraits-là pendant. Là, on dit, il y a eu une mise à jour de Boeing il y a à peine une heure, là, où il disait que d'ici 10 jours, le problème devrait être réglé pour le logiciel, pour les 737 MAX. Sauf que, en attendant, les compagnies aériennes doivent absorber ces pertes-là. Et, je le disais, si je me fie aujourd'hui au communiqué qui a été émis par Air Canada au gouvernement canadien, où on doit donc repousser tout le monde sur d'autres vols, il y en a quand même 12 000 par jour là, qui doivent être relocalisés sur d'autres vols. Ça, les 737, là, 12 000 personnes, j'ai mis une moyenne. Et ça, là, je sais que ça peut être beaucoup plus quand on part, par exemple, d'Halifax pour aller en Europe, ou encore qu'on part de Montréal vers Los Angeles, San Francisco, ou encore Chicago, parce que ce sont des vols qui sont quand même relativement réguliers avec les 737 MAX d'Air Canada. J'ai mis une moyenne de 500 $ par personne, par jour. Donc, si vous mettez 12 000 personnes, c'est 6 millions de pertes de revenus quotidiennement, ça, sur les 737. Et on sait qu'un avion qui n'est pas dans les airs est un avion qui perd de l'argent. Et outre le coût, bien sûr, c'est certain que ces avions-là qui ne volent pas, 50 à 60 des frais d'exploitation, ce sont les salaires, le carburant, etc. Mais il n'y en demeure pas moins que faut que tu continues à payer ton avion que tu as acheté. C'est des avions quand même relativement récents. C'est des avions qui coûtent 129 millions au bas mot. Et ensuite de ça, les frais de stationnement dans les aéroports, là, dépendamment où ils sont stationnés, ça coûte extrêmement cher de façon quotidienne. Donc, 6 millions de dollars, multiplier ça par 10, là, strictement 10 jours, c'est 60 millions. Alors, on comprend pourquoi Air Canada, aujourd'hui, a décidé d'abandonner ses prévisions financières qui devaient être publiées aujourd'hui et un autre qui devait être le 28 février dernier. Donc, on comprend pourquoi on a décidé, donc, devant cette incertitude de ne pas faire de prévisions et ça risque d'être comme ça pour le reste de l'année 2019 et les prévisions financières pour 2020-2021 sont mises sur la glace également. Donc, on sent là qu'il y a la pression. On a vu le titre d'Air Canada, comme tous les autres avionneurs qui utilisent les 737 MAX, baisser cette semaine. C'était le cas de WestJet, c'était le cas de Sunwing, c'était le cas d'Air Canada. Et en plus, il y a des ventes face. Là. On a vu les résultats financiers de Transat hier. Les ventes face, la devise canadienne qui est faible, donc ça coûte cher pour les compagnies aériennes parce qu'ils achètent à peu près tout en devise américaine. Et deuxièmement, ben il y a également le coût de carburant qui n'a pas arrêté de grimper depuis le mois de novembre passé. Donc, il y a quand même beaucoup de pression sur les compagnies aériennes. J'ai bien hâte de voir les résultats financiers, comment on va s'en sortir avec tout ça.
Les réseaux sociaux qui se sont enflammés à la suite de l'annonce de la rémunération des dirigeants de Desjardins.
Oui, je sais que mon collègue Pierre-Yves McSween en a parlé un peu ce matin, mais il n'y en demeure pas moins que je comprends pas la réaction parce que Desjardins, là, c'est pas un organisme de charité puis c'est pas un OSBL non plus, là. Alors donc, ils sont là pour faire de l'argent. On a augmenté les ristournes par rapport aux déposants. On a augmenté les résultats financiers. Les résultats financiers sont extrêmement bons. Donc, faut-tu rémunérer tes dirigeants à la hauteur des performances de ton entreprise. Qu'on le veuille ou pas, Desjardins, c'est une entreprise, c'est une banque, même si c'est un organisme qui a un statut particulier par rapport aux autres banques, mais il n'y en demande pas moins que si tu mettais les 5 dirigeants, là, on criait parce que Guy Cormier gagne 3 millions de dollars par année, mais tu mettrais les mêmes 5 dirigeants, les plus hauts salariés de Desjardins, dans la même salle que le président de la Banque nationale, puis tu aurais à peu près le même poids en termes de salaire. 9 millions de dollars pour les 5, 9 millions de dollars pour les gens pour le président de la Banque nationale. Donc, faut remettre ça en perspective. Les gens gagnent leur argent. Oui, c'est de la grosse argent. Là. Faut quand même s'entendre, 3 millions de dollars par année, mais faut pas en faire un plat non plus, parce qu'il faut quand même dire que Desjardins est en excellente situation financière, puis c'est parce qu'il y a 5 bons dirigeants qui sont là.
On termine avec le marché immobilier. Forte baisse des ventes de maisons le mois dernier, en février.
Oui, par rapport au mois de janvier, ça a baissé de 9,1%. Et là, on est en train de se demander si ce ne sont pas les nouvelles règles hypothécaires qui sévissent depuis 2 ans, ou encore le mauvais temps qui a sévi au cours du mois de février qui est la cause de cette baisse-là. Moi, je dirais les deux raisons. Parce que les gens, on l'a vu hier, Pierre-Yves t'en a parlé, l'endettement des gens est extrêmement élevé. On est quand même à près de 179%, c'est-à-dire que pour chaque dollar de revenu, tu as 1,79 $ de dette. Alors, les gens commencent à faire attention. Puis là, on verra là si la Banque TD a raison que la Banque du Canada ne hausse pas ses taux hypothécaires. Donc, ça pourrait peut-être permettre ça de pouvoir donner un petit peu d'air aux gens qui veulent acquérir une nouvelle maison ou encore la première maison avec des taux d'intérêt hypothécaires qui risquent de ne pas grimper dans les prochains trimestres. Pourquoi? Parce que la Banque du Canada ne bougera pas. Il en demeure pas moins qu'au mois de février, on s'entend, Paul, qui a pas fait beau, c'était peut-être pas le temps de commencer à magasiner une maison ou encore commencer à la faire bâtir. Ouais. Il en demeure pas moins que les transactions ont fortement baissé, particulièrement dans la région de Toronto. C'est Toronto et Vancouver le problème. C'est pas au Québec particulièrement, là, mais c'est plus dans ces régions-là où les maisons sont extrêmement dispendieuses. Oh. C'est peut-être difficilement... écoute, 1 million, là, c'est le minimum.
Mais t'as rien avec 1 million, ni à Toronto, million, ni à Vancouver.
Un million, t'as... Comme dirait mon grand-père, t'as une shed pour ça.
Une shed, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression-là. Ma grand-mère avait une shed dans sa cour. Merci beaucoup, François.
Et plaisir.
Bon week-end, on t'écoute avec...
Demain avec Mathieu.
Mathieu.
Au revoir.